franceinter.fr. Il est 7h43, Alain Baraton va parler d'un botaniste suédois qui est mort en 1789.
Et oui, et qui s'appelle Anders Dahl. C'est lui qui ramena en Europe la plante originaire du Mexique et baptisa en son honneur Dahlia, précision qui devra intéresser François-Régis Gaudry. Les premiers dahlias furent introduits en France pour être mangés.
Ça mérite quand même quelques explications.
Eh bien oui, au XVIIIe siècle, les Français découvrent la pomme de terre et les botanistes sont alors persuadés que les tubercules de dahlia peuvent rivaliser avec les patates. Aussi cultivent-ils le dahlia dans le potager comme plante aromatique.
Alors produire c'est bien, mais quand on cuisine c'est encore mieux.
Eh bien oui, les grands chefs se mettent au fourneau et inventent nombre de recettes, mais le résultat est terrible. Indigeste, personne n'en veut, personne n'en mange.
C'est exactement comme quand vous faites la cuisine.
C'est pas faux.
Et ils insistent.
Eh oui, en cette fin de siècle, le peuple meurt de faim, il faut tout faire pour le nourrir, mais rien n'y fait, le dahlia finit à la poubelle.
Et puis alors on s'intéresse quand même à sa floraison, en tout cas les jardiniers s'y intéressent.
Eh oui, il était temps, un premier dahlia fleurit au Jardin des Plantes de Paris en 1802, mais cette nouvelle laisse froid Napoléon, qui n'est pas très sensible à sa beauté, contrairement à son épouse Joséphine qui, elle, adore les fleurs. Alors il faut dire pour Napoléon que le blocus international contre la France affame à nouveau les populations. Aussi l'empereur persiste et signe. Il faut manger du dahlia. Eh bien, là encore, le peuple refuse cette nourriture.
Et les jardiniers, toujours aussi sages, continuent de cultiver les plantes, mais pour leur beauté.
Eh oui, les jardiniers se sont toujours distingués, vous avez bien fait de le souligner, par leur sagesse. De nouvelles variétés sont créées et le premier dahlia blanc fleurit dans les serres du parc de Saint-Cloud. Nous sommes en 1809.
Parc. Un parc magnifique.
C'est un parc très agréable qui a pourtant été massacré par le percement de l'autoroute A13 et quantité d'autres problèmes. Mais l'occasion de rappeler également que je trouve fabuleux qu'on soit capable, à quelques jours près d'ailleurs, de donner la date de floraison d'une plante. À l'époque, la botanique est une science, alors on a un dahlia, tout le monde est là autour et quand la fleur enfin apparaît, eh bien on en fait des articles incroyables, d'où les dates précises. Ce premier dahlia blanc fleurit bien donc en 1809. Alors, depuis, il est possible de posséder, d'admirer dans les jardins des dahlias pompons, à fleurs d'anémone, à fleurs de pivoine, de camélia, d'orchidée, et le plus connu, celui qu'on voit le plus souvent dans les jardins, vous savez, ce très gros dahlia, qui est le dahlia cactus, dont la fleur rappelle, de manière un peu caricaturale, j'en conviens, celle d'un cactus.
C'est celui qu'avait votre grand-père dans son jardin ?
Oui, et ce cactus, pas celui de mon grand-père, mais en général, est véritablement un miraculé, et l'histoire en deux mots mérite d'être racontée. Oui. En 1874, là encore la date est précise, quantité de dahlias sont prélevées au Mexique pour être livrées en Hollande. Le voyage dure de longues semaines, et aucune plante, je dis bien aucune, ne survit à la traversée, sauf une, le dahlia cacté. Il est vivant, mais il n'est guère reluisant, et il faudra attendre 12 ans avant qu'il ne soit hybridé. Il est le père de tous les dahlias cactus qui ornent nos jardins. Et chose incroyable, malgré les nombreuses campagnes pour en retrouver, jamais, il n'en fut retrouvé à l'état sauvage.
Ah bon, mais comment
ça se
fait ?
Eh bien, parce que cette plante avait dû être déjà en disparition. On l'a trouvée, peut-être a-t-elle été trop exploitée également. Vous savez, c'est l'époque où les Européens, quand ils partent dans l'exploration, massacrent tout ou presque. Ce n'est pas Alain Grandibourg qui dira le contraire. On voit ce qui est devenu, par exemple, le dodo qui a disparu de l'île Maurice. Eh bien, il en est de même des plantes. On trouve une plante rare. Eh bien, au lieu de se le contenter de la regarder et d'en prélever un petit échantillon, on va tout ramasser. Ces botanistes n'ont pas toujours été très sages.
Question d'Adeline. Adeline, comment éviter que les branches basses de mon pain ne deviennent marron ?
Impossible, c'est dans l'ADN du pin. Le pin cherche la lumière. Regardez, quand vous allez du côté du sud-ouest, dans la forêt des Landes, j'aime bien parler de cette forêt parce que je la trouve majestueuse.
Mais ça, je ne dirais pas le contraire.
Eh bien, vous avez des pins et on voit que petit à petit, les branches les plus basses meurent, sèchent et tombent parce que le pin n'a besoin finalement... Vous savez, les aiguilles de pin sont comme... Ce sont des feuilles. Ce sont des panneaux solaires. Et finalement, seule la partie en contact direct avec le soleil va permettre au végétal de vivre. Donc le pin se sépare des branches basses parce que tout simplement que les aiguilles ne sont plus exposées au soleil et ne lui servent plus.
Faut-il tailler les seringas et si oui, quand ? Vous demande Christophe.
Il est conseillé de tailler cet arbuste aux senteurs inouïes. Mmh. Vous êtes dans un jardin au début du printemps, vous avez des senteurs qui viennent vous caresser les narines, c'est généralement le seringa à ne pas confondre avec syringa. Le seringa, c'est le seringa. Le syringa, c'est le nom botanique du lilas, qui sont également très bons. Eh bien, le seringa, généralement, se taille après la floraison, donc maintenant, et il suffit simplement de réduire l'extrémité des tiges qui ont porté des fleurs.
Ai-je le droit de cultiver des pavots, vous demande Laurent.
Oui, contrairement à... Vous savez qu'on a pratiquement le droit de cultiver toutes les plantes. Éviter le cannabis, parce que là, il y a quand même des textes qui le prévoient. L'absinthe, vous pouvez la cultiver, c'est autorisé. Ce qui est interdit par la loi, c'est non pas la culture, mais c'est l'utilisation du végétal et de ce que vous en faites. Par contre, attention, certaines plantes demandent des autorisations précises. Vous avez le droit de mettre chez vous un pied de vigne. Mais à partir de quelques pieds de vigne seulement, vous devez déclarer auprès des douanes. Donc, soyez prudents.
De combien de pieds?
Non, pas tant que ça.
Ah bon?
Oui, je ne connais plus les chiffres exacts. Mais à partir d'un moment où vous êtes en mesure, avec ce que vous avez planté, de produire du vin, il vous faut signaler. Vous savez, j'ai eu à Versailles, il y a quelques années, affaire aux douanes pour une plantation de vigne. J'ai rencontré des agents d'exception, vraiment à l'écoute. Ça n'engage à rien de téléphoner, de se présenter, de dire voilà mon problème, quelle est la solution. Ce sont souvent, comme beaucoup de fonctionnaires généralement, même ceux des impôts, de bons conseils.
J'arrose ma pelouse abondamment dès que je...
On ne sait jamais, à la Mougre du Bourg, on ne sait jamais.
Jean-François, donc, arrose sa pelouse, c'est apparemment un citadin qui a une maison à la campagne. Il arrose donc sa pelouse abondamment dès qu'il arrive le samedi, et pourtant elle ne reverdit pas. Pourquoi?
Alors ça, j'explique parce que j'ai constaté moi-même le phénomène, et c'est classique. Vous avez une petite maison à la campagne, vous arrivez, il a fait très chaud, c'est le cas en ce moment, et l'herbe est jaune. Alors vous arrosez beaucoup, 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 mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que la plante, elle a des capacités limitées en eau. Elle absorbe ce dont elle a besoin, point. Et toute l'eau que vous avez mis en surquantité disparaît, va dans les profondeurs de la terre, est évaporée. Ce qu'il faut pour avoir un gazon toujours fait, c'est suivre l'exemple des golfs, qui n'est pas toujours un bon exemple d'ailleurs.
Ah bah non,
arroser
ça, non.
Régulièrement, peu, mais régulièrement. Si vous voulez avoir un gazon vert, 12 mois sur 12, on arrose tous les jours un petit peu. Mais j'en profite pour rappeler que ceux qui ont un gazon extrêmement vert en été, quand la région souffre de sécheresse, je trouve ça vulgaire, le vert, quand il est criard. J'aime bien.
C'est classe.
Oui. Un mot d'une balade dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais on le rappelle, dépêchez-vous.
Flower Power, le pouvoir des fleurs, c'est au domaine de Chaumont-sur-Loire, le Festival International des Jardins, et ça se tient jusqu'au 5 novembre.
Alain Baraton, vous êtes formidable, curieux de nature.